un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Une étude parue dans le Journal of Travel Medicine et recensée par Le Monde a calculé le nombre de naissances qui ont eu lieu à bord d'un vol commercial entre 1929 et 2018. Il s'élève à 74. Mais je dois tout de suite dégonfler une légende urbaine, ou plutôt atmosphérique. Les bébés nés dans un avion n'ont pas le droit de voyager gratuitement toute leur vie sur la compagnie, et le commandant de bord ne devient pas automatiquement leur parrain. Sur Air France, tout juste si la mère repart avec une peluche, et vu le coût estimé si l'avion doit détourner sa trajectoire, elle doit être heureuse de ne rien avoir à rembourser. Mais ce qui est étonnant dans cette étude, c'est de constater à quel point les appareils et personnels, les fameux PNC à vos postes, sont mal équipés pour faire face à ce genre de situation. Les compagnies aériennes se contentent de miser sur la présence à bord d'au moins un médecin dans un vol de long courrier. Et coup de poker, ça marche dans 85% des cas. Et dans la moitié de ces cas-là, seulement, le médecin est véritablement capable d'intervenir en urgence. Quant au matériel, l'étude révèle que du whisky, du scotch ou de la vodka ont parfois été employés pour désinfecter des ciseaux et autres outils utiles à l'accouchement. Des lacets de chaussures ont été utilisés pour nouer le cordon ombilical et parfois, les seuls ciseaux à bord venaient de trousses à maquillage. L'article mentionne aussi des pailles à jus de fruits utilisées pour réaliser une trachéotomie en urgence. Le plus simple donc, si vous ne voulez pas accoucher en l'air ni polluer la planète, étant de ne pas prendre l'avion du tout. En attendant, voici deux histoires d'un autre siècle qui se passent en l'air, dans un avion militaire et un avion commercial, par Claudia Prolongeau.
Je m'appelle Alexandre, j'habite dans le nord-est de la France, j'ai 42 ans. Et je suis dans l'armée de l'air depuis 1999. La première fois que je suis monté dans un avion avec mon père, je devais avoir 12 ou 13 ans. Et c'était une sorte de début de voyage initiatique. Parce que c'est là que j'ai découvert le monde vu d'en haut. C'était la première fois. J'ai toujours été persuadé que je le ferais pilote un jour. Pour moi, c'était une évidence. Donc je suis rentré dans l'armée de l'air, j'avais 19 ans. Et j'ai pu commencer à voler quasiment tout de suite. Au final, j'ai été breveté pilote de chasse en octobre 2002, à 22 ans, et j'ai commencé à voler sur Mirage à 23. Ben, on est en combinaison verte, hein, comme un pilote de chasse. On met un parachute sur le dos, en fait, c'est un avion qui va vous donner le maximum de ce que le corps humain peut supporter. Parmi les jeunes, on l'appelait la bête, et la bête, il faut la dompter. Il va faire ce que vous demandez, mais en vous malmenant. C'est une sensation... bien souvent d'écrasement vers le bas quand on prend des jets. Donc c'est assez physique. Le sang va refluer vers le bas du corps, donc on perd un petit peu la vision des couleurs. Si on va un peu plus loin, on commence à perdre la vision complète, et ça peut aller jusqu'à la perte de connaissance. Et après, ce qui marque beaucoup aussi, c'est la poussée que ça peut avoir au décollage. On va pouvoir grimper à des altitudes phénoménales en pas longtemps. Donc on n'a plus du tout le même rapport à l'espace, déjà parce que l'avion, une fois qu'il avance à 800-900 km/h, faut se dire que l'horizon qu'on a devant soi, il est à 1 minute 30 de vol. Et on n'a pas la même perception du temps non plus, parce que voilà, le monde défile beaucoup plus vite. Donc c'est plus un décalage avec les sensations qu'on peut avoir quand on est, je dirais, quand on est piéton, quand on est par terre, quoi. La France s'engage en Afghanistan à partir de 2002, suite aux attentats du 11 septembre 2001. L'armée de l'air engage ses chasseurs d'abord depuis des pays qui sont situés au nord, et puis après, à partir de 2007, depuis la base de Kandahar, qui est au sud de l'Afghanistan. Donc moi, j'y suis allé 3-4 fois au total, pour des missions qui s'étendent de 2 à 3 mois. Alors, dans le Mirage que je pilote, on est toujours deux. Donc ce jour-là, c'est le 24 mai 2011. On doit rentrer la semaine suivante. On a déjà dû faire peut-être une bonne vingtaine de missions avec mon navigateur, donc on a des automatismes qui se développent. Donc ce jour-là, la mission, elle doit décoller assez tôt, je crois que c'est 8 ou 9 heures du matin en local. pour aller appuyer des troupes italiennes qui, là, sont sous le feu de l'ennemi. Donc on décolle à tour de rôle, le Mirage F1 devant, puis notre Mirage 2000 derrière. On se rassemble après décollage avec notre leader. Le paysage afghan commence à défiler un peu sous nos ailes, une région assez chaude de l'Afghanistan, hein, c'est réputé pour être un coupe-gorge. On n'en sait pas plus hein, à ce moment-là, puisque on a juste une coordonnée géographique. Arrivant sur place, on n'a pas de mal à l'identifier. C'est un convoi d'une vingtaine de véhicules, c'est un convoi assez conséquent, assez imposant. Et ils nous font état de coups de feu sporadiques qui viennent de quelques endroits aux alentours. Donc on essaie de fournir l'appui qu'on peut à nos collègues italiens en faisant de la reconnaissance sur certains points, en essayant de faire du bruit aussi. Donc on fait ce petit manège pendant une petite demi-heure et on décide de ne pas ravitailler ensemble avec mon leader pour faire une sorte de relais. Le but, c'est de maintenir cette présence des avions de la coalition, ce qui peut avoir un effet dissuasif aussi sur quelqu'un qui serait menaçant, mais ce qui a pour conséquence de nous séparer en cas de coup dur. Ce jour-là, le ravitailleur se trouve plus loin que prévu, donc le leader va mettre plus de temps à faire l'aller-retour, et nous, notre carburant décrémente. Donc ça veut dire qu'on va devoir partir et laisser nos amis italiens tout seuls, pour pas longtemps, hein, pour une dizaine de minutes, mais va se produire ce qu'on voulait éviter, c'est-à-dire partir tous les deux et laisser un ciel vide qui montre bah, que les avions sont absents et qu'on laisse le champ libre aux insurgés. Donc on va faire, avant de partir, une dernière manœuvre dissuasive. Ça consiste en un passage à basse altitude, à très haute vitesse, le plus bas possible, de manière à faire du bruit, à être impressionnant. Donc ça, c'était le plan initial. Il se déroule bien pendant la première minute, c'est-à-dire la phase d'éloignement, on va descendre, on se rapproche du désert, moi je laisse l'avion accélérer, je suis plein pot, hein, la manette des gaz embutée vers l'avant, l'avion vibre tranquillement dans les petites turbulences près du sol, enfin on est en train de surfer la couche d'air chaud qu'il y aura du sol, et c'est, pour un pilote, pour parler purement sensation, c'est grisant. Enfin moi j'adore mon job à ce moment-là, c'est génial. Et avant de survoler notre convoi, peut-être 4 ou 5 km avant, j'entends et je ressens une forte détonation, une sorte d'explosion, comme si quelqu'un avait mis une grande claque à l'arrière de l'avion, sur un côté, et en même temps, j'ai l'impression qu'il s'arrête en vol. On ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là. Il y a des alarmes qui sonnent, il y a tout un brouhaha en cabine, la température est embutée, les voyants-feu sont allumés, donc visiblement c'est en train de cramer derrière. Là, je sais que c'est grave. En une seconde, on passe d'une situation où tout va bien, où on fait le meilleur métier du monde, à je me retrouve dans un avion qui vole seulement parce qu'il a de l'élan. Enfin, c'est un avion parce qu'il a deux ailes, mais sinon c'est un tas de ferraille. Voilà. Ça va perdre de la vitesse, ça va tomber. Voilà. On est au-dessus du territoire afghan avec des gens qui nous veulent pas du bien en dessous. Donc le dernier truc qu'on a envie, c'est de finir à pied par terre, hein, forcément. Et là, c'est mon navigateur qui me dit « Bon, on va s'éjecter. » On resserre nos harnais, on vérifie que tout est en ordre, on abaisse nos visières. Moi, je dis à mon navigateur « Écoute, je pilote tant que j'ai encore un peu de vitesse, je vais viser une zone non habitée, et puis on sortira de l'avion quand ce sera les bonnes conditions. » Mais on sait que c'est dans les 20 secondes qui viennent, hein, donc j'ai un niveau de stress qui est quand même assez élevé, pour pas dire extrême. Et c'est une sorte de compte à rebours. Et de compte à rebours, C'est bête et violent à dire, mais c'est un compte à rebours vers la mort, en fait. C'est-à-dire, quand l'aiguille arrivera à zéro, enfin, à la vitesse qui me permet plus de voler, si je suis dans l'avion, je serai mort. Là, c'est mon navigateur qui initie la procédure. On se cale tous les deux dans le siège autant qu'on peut, c'est-à-dire qu'on prend une position qui est prévue pour ne pas se blesser, parce que le siège va nous sortir avec une poussée assez phénoménale. Au moment où je tire ma poignée, j'entends une détonation derrière, puisque la verrière de derrière vient d'éclater et le siège vient de partir. Et puis d'un coup, je me vois comme si j'avais monté mon siège de 20 cm. Mon éjection, je la vis comme une séquence de flash, d'images fixes. Je vois pas un film qui se déroule, moi. Et au début, je sens pas la poussée. Enfin, je suis déconnecté. Après, je ferme les yeux à ce moment-là. Là, je sens le siège qui commence à pousser. Alors pour remettre les choses en perspective, le siège, il va m'amener environ 100 mètres au-dessus de l'avion en 2 secondes. Et l'ouverture de mon parachute, je trouve ça aussi extrêmement violent. J'ai l'impression que mes membres vont se détacher de mon corps tellement je suis étiré vers le bas cette fois-ci, mais comme un élastique. Hein, j'ai l'impression vraiment d'être écartelé. Et une fois que le parachute s'ouvre, le calme revient, j'ouvre les yeux, et ça c'est un souvenir que je garderai ancré toute ma vie, hein, c'est de voir cet avion avec une flamme derrière qui s'éloigne de moi, parce que c'est pas naturel de voir son avion de dehors. C'est-à-dire qu'il y a quelques secondes j'étais assis dedans, là, et puis là je le vois s'en aller. Ensuite je vois le sol qui s'approche, et ces parachutes ont un taux de descente qui est assez rapide, pour éviter de se faire tirer dessus par des gens qui seraient plus bas. Et ça descend fort. J'ai peur de me fracturer les deux jambes. J'ai peur parce que ça doit faire mal. Et puis j'ai l'appréhension, en pensant à un peu plus long terme, de me dire, si je suis blessé, là, si j'ai une fracture ouverte, je suis quand même au fin fond de l'Afghanistan, c'est pas une situation d'avenir. J'ai quand même envie de pouvoir me battre jusqu'au bout et sauver ma peau, quoi. Et au moment où ça tape, en fait, c'est ultra violent. Je sens tout mon corps qui vibre depuis mes talons jusqu'au haut de ma colonne vertébrale. C'est une sorte de grand fracas. Je suis allongé par terre, il y a une espèce de nuage de poussière en suspension qui retombe, et un silence total. Donc avant de me relever, je me palpe un peu partout pour vérifier que j'ai pas au moins une cheville foulée, un truc comme ça. Et là, il s'avère que j'ai rien. Je me relève, je suis entier. Je suis quand même choqué, hein, je vous cache pas. Mais je suis sur mes deux jambes. Il n'y a pas d'os qui sort, il n'y a pas de sang qui gicle. Je suis presque content. Mon navigateur, lui, forcément, il s'est éjecté une demi-seconde plus tôt, donc il n'est pas très loin. Donc, visiblement, il a l'air d'aller bien aussi. Ça fait un bien fou, parce que c'est rassurant d'être à deux. Ensuite, il va falloir survivre. Il y a un petit écueil psychologique à surmonter et à se dire, il y a quelques minutes j'étais dans un chasseur surpuissant et c'était moi le maître du monde, et là je suis à pied et puis c'est moi la proie. Moi j'ai une radio sur moi qui va nous permettre d'appeler les aéronefs qui seraient aux alentours et qui a une chaîne de secours qui se met en place. Je passe un message de détresse à la radio pour qui pourra m'entendre, et au bout de quelques appels radio j'arrive à voir enfin quelqu'un qui me parle de très loin, une sorte de voix d'outre-tombe. Et il comprend pas ce que je lui dis. Donc nous, on passe un petit quart d'heure au sol, tout seul. On regarde autour de nous les quelques fermes qu'on voit au loin. Eux, ils ont sûrement du réseau, et ils ont sûrement des contacts entre eux pour se donner l'alerte si des gens mal intentionnés nous ont vus, quoi. Donc on n'est pas très rassurés à ce niveau-là. Mais on sent petit à petit que sur la fréquence, d'autres personnes arrivent, qui ont un bon accent américain, qui commence à prendre le lead sur les opérations. Ils se veulent rassurants, parce qu'ils savent que c'est notre morale qui peut tout faire basculer. Tous les instructeurs en survie vous diront, la faim vous tuera en plusieurs semaines, la soif en quelques jours, le froid en quelques heures et la panique en quelques secondes. Donc ils sont là pour nous materner, voilà, pensez à boire, racontez pas trop votre vie à la radio, il y a des gens qui peuvent écouter, pensez à vous mettre à l'ombre. Donc voilà, ils nous chouchoutent en fait. Et ce petit manège dure environ une demi-heure, trois quarts d'heure, pendant lesquels, en fait, des hélicoptères ont décollé pour venir nous chercher. Puis, à un moment, regardant l'horizon, on voit deux gros points noirs qui sont collés au sol et qui, visiblement, viennent vers nous, avec un petit peu de fumée noire derrière. En fait, ce sont deux gros hélicos. L'hélico se pose, ça va soulever une poussière phénoménale, ça va soulever des pierres, mais il se passe rien. On se retourne, et on voit derrière nous cet hélico qui est posé, avec la porte arrière qui est ouverte, et un soldat américain. Alors c'est l'archétype du GI qu'on voit dans les films, c'est-à-dire un gars qui doit faire 2 mètres de haut sur 1 mètre de large au niveau des épaules, avec une grosse paire de lunettes de soleil bien noires, et une espèce de grosse mitrailleuse en bandoulière, un truc presque caricatural. Et puis il nous fait signe de venir, tout simplement. Une fois qu'on est dans l'hélico, moi j'ai l'impression là aussi que comme si la lumière se rallumait. Après une sorte de malaise vagal où on a perdu un peu les couleurs, l'audition, la notion du temps, et puis là d'un coup, hop, tout se rallume. Et on le voit dans notre regard l'un l'autre, quoi. On cherche même pas à se parler, on se donne juste un petit check avec la main, Voilà, bon, on va dire le job est fait. Et le job, c'était rester en vie ce jour-là. Donc cette fois, on nous met dans un autre avion qui va nous ramener sur notre base de Kandahar. Donc on arrive... Kandahar, il doit être peut-être 17h. Et on pensait pas quand même dormir dans nos chambres le soir même avec nos copains, quoi. Donc on se sent entouré, voilà, c'est un moment assez chaleureux. Et on se rend compte que l'éjection en elle-même, c'est pas si terrible. Bon, alors qu'en fait, pendant 30 jours, j'étais... pas alité, mais j'étais incapable de marcher correctement, j'avais mal partout, j'ai des bleus qui sont apparus a posteriori. Voilà, c'était un événement très traumatisant physiquement, mais psychologiquement, j'ai vécu des choses bien pires dans les 2 heures qui ont suivi. Alors moi, j'arrive à joindre mon épouse, mais j'arrive à la voir vers à 18h ou quelque chose comme ça. Pour la rassurer, quoi. Donc une petite semaine après, on est rentré en France. Et depuis, donc mon navigateur et moi-même avons l'insigne honneur de faire partie du club des éjectés, qui est un club assez sélect, hein, parce que les pilotes de chasse en activité qui ont connu l'éjection, armée de l'air plus marine, on doit être, je vous dirais, une petite cinquantaine. Et en France, depuis les années 50 ou 60, moi je suis numéro 670, mon navigateur, lui, est 669. Pourquoi ? Parce que il est parti une demi-seconde avant. Donc voilà, on a une carte de membre. On a surtout une cravate que les gens portent fièrement et que seuls les éjectés se voient remettre à l'occasion de ces cérémonies-là. Et bah, si vous voyez un jour quelqu'un avec une cravate bleu foncé et ses petits triangles rouges qui symbolisent la présence d'explosifs sur un avion, vous saurez qu'il a passé quelques bons et mauvais moments sur un siège éjectable, mais que finalement il a eu la chance de s'en sortir aussi.
Je m'appelle Tariq Saïb Eddin, j'ai 51 ans, j'habite Paris, je suis originaire du sud à Bordeaux. J'ai tout le temps rêvé d'être un sportif de haut niveau, donc j'ai commencé comme tout le monde dans le foot. Et j'ai connu la boxe en 1990, je suis passé professionnel, j'ai eu plusieurs titres internationaux et nationaux de boxe professionnelle. Et je suis, depuis 2017, éducateur spécialisé en protection de l'enfance. En août 2018, je fêtais mes 6 ans de mariage et je décide de faire une surprise à ma femme. On est parti, on a fait la Croatie, la Bosnie et on finit par l'Allemagne avant de rentrer. Donc, le 24 août, on part à l'aéroport de Munich. On rentre dans l'avion et donc le siège où on m'a mis, c'est près des issues de secours, juste au niveau des ailes. L'avion décolle, il est arrivé en altitude là et il y a l'hôtesse qui arrive derrière moi avec son chariot et elle commence à proposer les boissons. Et je vois, elle est collée par un mec qui a une attitude pour moi qui est anormale. Il est grande taille, 85, 90 peut-être, il est fin. Je crois qu'il doit avoir entre 22, quelque chose comme ça. Il est jeune. Et je me dis, mais pourquoi il la colle comme ça? Il y avait tout l'espace, ça faisait comme un sas. Pourquoi il la colle? Donc ça attire mon attention. J'essaie de comprendre ce qu'il lui dit, mais on est en plein vol, il y a les réacteurs qui sont pas loin, j'arrive pas à entendre. Et l'attitude qui est anormale, c'est qu'elle est figée. Lui parle à l'oreille dans son dos et elle bouge pas. En levant la tête, je m'aperçois qu'en bout d'avion, il y a le chef de bord qui est là, qui a vu la scène, et lui vient en renfort pour demander à ce mec de regagner son siège. Et je comprends qu'il y a un problème, puisque le mec mime des coups de tête au chef de bord. Le chef de bord fait demi-tour, il repart vers le cockpit, et ce même gars va le suivre. Donc là, je prends au plateau, je le donne à ma femme, et je lui dis, écoute, il y a un problème, je crois qu'il va avoir une bagarre. Et donc je me lève vite fait et je vais les rejoindre. Et là, j'entends ce mec parler en français et il va dire au chef de bord, bon, écoutez, maintenant, c'est moi le patron, vous allez faire tout ce que je vous dis. Donc en face de moi, il y a le chef de bord. Je le regarde dans les yeux, il me tend les deux mains, il prend ma main, il me dit, restez s'il vous plaît. Le mec est dos à moi. J'essaie de pas montrer qu'il y a un conflit. Donc je lui parle gentiment, doucement. Je fais pas de gestes. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton problème? Dis-moi ce que t'as. Et puis il me dit, écoute, toi, te mêle pas de mes histoires. C'est entre moi et eux. Et ça chauffe entre nous. Déjà, moi, je sens que je vais en venir aux mains avec lui. J'ai les poings serrés. Et le chef de bord me dit, s'il vous plaît, pas de bagarre. S'il y a une bagarre, ça va être la panique dans l'avion. Donc, je le regarde et le mec me parle plus. Il me dit, écoute, moi, j'ai pas de problème ni avec toi, ni avec ta femme. Et puis, à un moment, il me regarde comme ça. Et c'est là où je comprends que le mec est perturbé. Il me dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que j'ai peur de mourir? Tu crois que j'ai peur de toi? Et d'un coup, il va poser sa main sur la poignée qui ouvrait la porte. Il me regarde fixement, il me dit, est-ce que tu veux que j'ouvre? J'ai pas peur de mourir, alors tu vas faire quoi? Et je me dis, ça va très vite dans ma tête. Je me dis, alors, soit je lui saute dessus, mais on sait pas, est-ce qu'il peut avoir une dépressurisation, est-ce qu'il peut avoir quelque chose, je sais pas. Soit je le bluffe. Je lui dis, écoute, ouvre. Tu veux faire le malin? Ouvre la porte. Mais à travers ce moment-là, j'avais l'impression de revivre toutes mes conférences de presse, l'avant-match, où tu vas te défier du regard, tu vas essayer d'impressionner ton adversaire. Il fallait montrer que si lui était déterminé, j'étais encore plus déterminé que lui. Et on s'est retrouvés dans ce bras de fer. Ça l'a rendu fou de rage. Pourquoi il se met à crier? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Et il lâche la porte. Il fait le mort. Il se laisse tomber. Il bouge plus. Il fait le mec qui dort. Et à ce moment-là, le chef de bord parlait par téléphone et il me regarde, il me fait un signe des yeux, viens, suis-moi. Donc on se retrouve à parler en queue de l'appareil. Il y a trois hôtesses qui sont là et il dit, bon voilà, la police est au courant, on va attendre le top départ des forces de l'ordre, il faudra le contenir. Je regarde, je me dis, mais on est trop. Moi, si vous me mettez pas de problème, si vous me laissez, je veux bien m'occuper de lui. Et à ce moment, le passager là s'est relevé, il se lève, il passe devant moi, et je l'entends à voix haute dire, bon, mais puisque le commandant veut pas venir me voir, personne veut me parler, je vais prendre les commandes et on repart à Munich. Et je le vois se diriger vers le cockpit. Et dans ma tête, c'est court-circuit. L'adrénaline, là je comprends réellement ce qu'il fait. Je me dis, bon, je vais pas attendre le top départ de la police, tout le truc. Je vais lui sauter dessus. Et on se retrouve par terre au sol. Et je vais le maîtriser. Tout le monde vient le bloquer. Et on va lui attacher les pieds, les mains. Et à un moment, il a réussi à se dégager les mains. Et je le vois, il veut mettre un coup de poing. Et je lui dis, écoute-moi, bouge, fais-moi ce plaisir, je t'arrache ta mâchoire. Je le tenais, j'avais armé mon droit. Et je lui dis, fais-moi ce plaisir, je t'allume. Et puis, je vais le tirer, je vais le glisser entre deux fauteuils, les pieds en l'air pour pas qu'il prenne d'appui. Et on va voyager comme ça. Et à ce moment-là, j'ai de la peine pour lui, je le regarde. Et je lui dis, mais tu te rends pas compte de la merde que tu es maintenant. T'aurais pas dû faire ça, quoi. Donc on va voyager jusqu'à arriver à Charles de Gaulle et peut-être un quart d'heure après, La police rentre par l'avant. Ils sont, je sais pas, peut-être 6 personnes. Et là, je dis, tenez, prenez-le. Et la police bouge pas. Il me regarde et je comprends que il pense que j'étais son acolyte. Au début, dans l'avion, j'essayais d'être discret. Donc certaines personnes ont pensé que j'étais avec lui, qu'on n'était pas d'accord, peut-être sur une prise d'otage ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qui m'a posé problème, parce que je dis, merde, on est en plein terrorisme, l'islam, il est à fond dedans. Alors en plus, j'avais la barbe un peu plus longue qu'aujourd'hui. Je dis, merde, ils pensent peut-être qu'on est là-dedans. Et je veux leur dire que non, on n'est pas tous méchants, quoi. Les musulmans sont si gentils. Mais voilà, je pouvais pas parler, je pouvais pas. Et c'est le commandant de bord qui voit la police rentrer, qui sort de l'avion et qui dit, non, ce mec, vous pouvez le remercier. Et la police, à ce moment-là, va embarquer le mec. Et nous voilà, direction la police des frontières à Charles de Gaulle. Et ça va être très long. On va sortir, il doit être 23h30, peut-être. Il est très tard. Et donc, on a fait nos dépositions. Et à la fin, la police vient me voir, me dit, écoute, voilà, super, tant mieux, merci, au revoir. Je dis, mais c'est pas vrai, tu vois. Il y a le RER à prendre, j'ai perdu beaucoup de temps, je me dis au moins minimum, on dit tiens voilà, rentre en taxi, on t'appelle un taxi, ou une équipe de police vous déposera, je sais pas, rien, au revoir. Quand la police est arrivée à la fin, j'ai entendu quelques applaudissements, il y a des gens qui ont applaudi, mais j'ai même pas pu échanger avec eux, j'ai gardé aucun lien avec personne dans l'avion. Par contre, j'ai une photo dans le cockpit, je suis au volant, et j'ai la Fédération Française de Boxe qui m'a récompensé d'un grade le plus haut, l'officier du mérite, quoi. J'ai une médaille, et j'en ai été fier, c'était une très belle récompense. Vous savez, le boxeur a souvent une mauvaise image du gars bourrin qui va taper, réfléchir après. Mais la boxe, c'est un sport qui apporte beaucoup de valeur. Le respect de l'adversaire, le dépassement de soi, le sang-froid, tout ça, c'est... Chacun a des compétences et maintenant il faut savoir les exploiter. Et la boxe, ça peut être une très belle arme.
C'était En plein vol, un reportage de Claudia Prolongeau réalisé par Jeanne Cherquefos. Merci à Tariq, Faï Bédine, Alexandre et à Loïc Tatar. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris et notre stagiaire, c'est Rita Ruggirello.